With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. 30% des femmes en âge de procréer ne souhaitent pas avoir d'enfants. Le magazine Elle a publié hier ce sondage IFOP qui interpelle pourquoi près d'un tiers des jeunes femmes françaises renoncent-elles à l'idée d'être mère? Ont-elles peur de l'avenir, d'un monde incertain qui oscille entre inquiétude écologique et risque d'embrasement? Vivent-elles la naissance d'un enfant comme une perte de liberté, comme une responsabilité trop lourde qu'elles ne souhaitent pas assumer? Est-ce là un signe d'un individualisme poussé à l'extrême qui illustre une génération nouvelle où le moi condamne le nous? Est-ce un changement anthropologique et l'annonce de ne plus vouloir un jour se reproduire? Ou encore n'est-ce là qu'une photographie passagère que le temps gommera ces prochains mois? J'avoue que je n'en sais rien. Ce sondage m'a étonné. Le monde change pour le meilleur ou pour le pire. Chacun aura sa réponse. Il est 9h. Audrey Berthaud, je ne vous poserai pas cette question, mais j'attends de vous les infos.
La réforme des retraites, le groupe LFI refuse de participer au nouveau cycle de concertation que va lancer le gouvernement sur les retraites. Des concertations qualifiées de mascarade par le groupe de la France Insoumise. L'exécutif a annoncé hier qu'il allait rouvrir un cycle de concertation sans pour autant exclure une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de blocage. Vladimir Poutine va officialiser l'annexion des 4 régions ukrainiennes par la Russie. Il prendra la parole à 14h depuis la Place Rouge. Discours à suivre en direct sur CNews. Hier, le président russe a reconnu l'indépendance des régions de Zaporizhia et de Kherson et menacé de les défendre avec l'arme nucléaire. Enfin, il pourrait s'agir de l'épisode météo le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, selon Joe Biden. Après le passage de l'ouragan Ian, les dégâts sont innombrables, vous le voyez. Au moins 12 morts ont été recensés pour le moment. Ian se dirige désormais vers la Caroline du Sud et du Nord et la Géorgie dans le sud des États-Unis.
On recevra tout à l'heure Patrick Sébastien à 10h. Soyez avec nous parce que son livre est tout à fait étonnant, Vivre et renaître chaque jour. Georges Fenech, Éric Nolot, Paul Melun, Joseph Massescarleron. On parlera évidemment de ce sondage. Je ne sais pas si vous a étonné ou pas parmi le flot d'informations que nous recevons. Mais je voulais peut-être que nous commencions par Rennes, puisque de violentes émeutes ont éclaté hier soir dans le centre-ville de Rennes. Un jour c'est Nantes, un soir c'est Alençon, hier c'est Rennes. Je ne sais pas si c'est un effet de contagion ou pas. Plus tôt dans la soirée, un appel à un cortège d'un groupe d'ultra-gauche avait circulé sur les réseaux sociaux hier soir. Le rendez-vous était donné place Sainte-Anne, que les Rennais connaissent bien. Je vous propose de voir le sujet de Sybille Delettre.
Tout a commencé hier soir vers 23h, place Sainte-Anne, un lieu bien connu des fêtards et bondé en fin de semaine. Des manifestants d'ultra-gauche se retrouvent suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux. Certains étaient vêtus de noir et avaient des parapluies. Ils ont installé un imposant bûcher fait de cartons, de mobilier urbain, mais aussi de chaises et de tables, trouvés à proximité. Bûcher qu'ils ont ensuite embrasé. Les flammes faisaient plusieurs mètres de haut.
Il y avait de la musique. Il y avait quelqu'un qui avait un ampli sur la tête. Et donc ouais, c'était plutôt festif. Il y avait des gens qui riaient.
Mais très vite, la situation dégénère. Les forces de l'ordre tirent des grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants, qui réplique immédiatement par des tirs de projectiles et des tirs de mortiers d'artifice.
On entend deux grosses détonations. Au début, on a pensé à des coups de feu, ça nous a fait peur. Et en se retournant, on a vu que c'était des feux. On a cru à des feux d'artifice. Mais on a vu ensuite dans les médias, etc., que c'était des tirs de mortiers contre les policiers. Donc c'est vachement moins drôle. Mais voilà, donc on a eu peur.
Après avoir allumé un autre feu, place de la mairie, les manifestants ont été dispersés vers 1h du matin.
La saison dernière, on a reçu régulièrement Michel Maffezoli. On l'a reçu pour un livre qu'il avait écrit, L'ère des soulèvements. Absolument. Et il annonce que les prochaines années, toute opinion, toute tendance, si j'ose dire, confondue, ça sera l'ère des soulèvements. Un jour, c'est les gilets jaunes. Un jour, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche. Un jour, autre chose encore.
Juste avant le soulèvement, il avait fait, bien sûr, le livre très connu, Le temps des tribus.
Oui.
Parce que les tribus nous amènent précisément au soulèvement.
Oui, oui.
Vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Ça, c'est un phénomène que que Maffezoli a très très bien décortiqué, qu'il a d'abord, il s'est pas tenu simplement là en France. Hein. Il faut dire que Maffezoli voyage beaucoup, il est d'ailleurs très très populaire, encore plus populaire hors de France, au Brésil, en Amérique latine ou autre, et que son analyse sur une forme, le lien entre l'individualisme, le consumérisme et justement ce temps des tribus, c'est-à-dire ce fractionnement limité et cette nécessité de lui, il appelle ça l'élément dionysiaque. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrationnel aujourd'hui qui appelle au soulèvement. Ça peut nous ramener, moi je suis historien de formation, ça peut nous ramener aussi à l'Ancien Régime, quand je vois ça, hein, l'Ancien Régime. C'est-à-dire toutes ces émeutes ou ces émotions populaires avant la Grande Révolution, qui était la Révolution française. Moi, je suis frappé par ça.
Mais je pense que la différence avec les soulèvements de jadis, c'est là où il y a un changement de paradigme total. On l'a bien vu avec les Gilets jaunes, c'est que ce sont des soulèvements qui sont non conventionnels, si je puis dire, qui n'ont rien à voir avec les mouvements sociaux traditionnels.
C'est un peu organisé.
Mais par rapport effectivement à ces grands défilés où l'on voyait la CGT, la CFDT.
Et hier, d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que hier, la manifestation qui a sans doute été globalement un échec.
Avec ça.
On est d'accord, globalement, les gens ne le disent pas comme ça, mais il n'y avait pas grand monde. Mais il n'empêche que cette manifestation, qui est toujours bien organisée par la CGT, il y a eu effectivement infiltration de l'ultra-gauche et même la CGT a du mal maintenant.
Absolument. Et je pense que ces anciennes intersyndicales énormes où il y avait 1 million de personnes dans les rues, où tout se passait bien, vous aviez ces gens avec les gilets fluo de la CGT, de FO qui faisaient le service d'ordre, etc. Ces grandes mobilisations-là sont en train de passer. On l'a vu avec les gilets jaunes. Gilets jaunes ont obtenu plus que M. Martinez ou jadis les autres, que pendant des années. Donc c'est très intéressant de voir que ces nouveaux soulèvements renversent les précédents.
Mais le témoin rennais a utilisé l'adjectif festif, qui est également cher à Patrick Sébastien, comme quoi le même mot pour recouvrir des réalités assez différentes. Mais là, c'est quoi ? C'est le festif, c'est la privatisation de l'espace public, c'est-à-dire je fais ce que je veux, j'allume des feux, je tire des mortiers, et j'en ai rien à foutre du reste. Ouais. Donc c'est, en effet, c'est, non seulement c'est la tribu, mais c'est la tribu qui doit écraser les autres tribus. Donc c'est quand même... un peu, on avait beaucoup progressé dans la civilisation. Je trouve que petit à petit, on régresse vers forme d'ensauvagement.
Oui, mais on en revient à ce que toujours la même chose. Est-ce qu'il faut changer le logiciel en tout ? Est-ce qu'il faut tout changer ?
Mais bien sûr. Un mauvais exemple est donné d'en haut. Comment s'étonner qu'ensuite vous avez ce genre de manifestation ?
Pourquoi vous dites ça ?
Quand j'entends des responsables politiques dire la police tue, par exemple, l'une des tribus, c'est la police, l'une des bandes rivales. On n'hésite plus à tirer des mortiers sur les fonctionnaires de police. C'est ce qui s'est passé hier. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de, hasard, si vous voulez. Il y a un climat général qui est entretenu par certains responsables politiques qui fait que ça se retrouve sur le terrain.
Voilà. Bon, en tout cas, dans leur esprit, c'est en effet, comme dit Georges, c'est tribu contre tribu.
Exactement.
C'est-à-dire les personnes dans l'uniforme, dans l'uniforme, ne voient pas l'État.
Ils
ne
voient
pas
l'État. L'État voit une bande rivale, une tribu.
En tout cas, faut-il changer de logiciel dans plein de domaines et sur la sécurité?
Et la question dans la question, c'est qu'est-ce qu'il faudra pour qu'on décide de changer de logiciel? Quel incident, quelle gravité d'incident faudra-t-il pour qu'on en arrive à cette décision qui, de toute façon, on prendra un jour. Voilà, c'est sûr.
Et c'est les gens qui décideront quand ils en auront marre.
Voilà. Et quand en auront-ils marre?
Dans une grande démocratie, ça devrait même passer par le vote, a priori.
Eh oui.
Je vous rappelle que la maire de Rennes a participé, la maire PS de Rennes a participé cette année aux universités du PS à un débat se posant la question de la police qui tue. Cet été, c'est la même, je l'ai dit il y a 15 jours, elle était là au premier rang, la police qui tue, et elle était présente, la maire de Rennes, PS, bien sûr.
C'est la même qui avait fait les piscines avec les burkinis.
Et on se retrouve, on parlera de Nantes dans quelques instants, mais à Nantes maintenant, ça y est, la prise de conscience a été faite. Il faut saluer Johanna Roland, on a souvent dit, pour le coup, reprocher ou regretter ses prises de position, on l'entendra tout à l'heure, depuis hier soir, depuis la séquence nantaise, manifestement, les choses ont évolué. Et justement,
à une exception près, c'est qu'il y a une défausse quand même. Elle dit, c'est la police et la justice, c'est l'État, c'est pas moi.
Mais ça s'entend. Cet argument s'entend.
Bien sûr, elle a plutôt raison.
À un point près,
cet argument s'entend.
Un point près, pardon, parce que ce qui est celui de la police municipale.
Oui,
il existe quand même.
Moi, ce que je remarque quand même, et c'est pour ça,
pas vraiment à Nantes.
Il faut que nous soyons des hommes de bonne volonté, comme dit l'autre. Quand quelqu'un évolue sa position ou change, il faut le remarquer avec l'honnêteté intellectuelle.
C'est le changement de discours que nous saluons. Maintenant, on va attendre le changement dans les actes, parce que le changement de discours, à chaque fois qu'il y a un peu de pression, on assiste à un changement de discours, mais rarement à des changements dans les actes.
Alors, j'attends. La femme violée à Nantes, très intéressant, ça. Vous avez peut-être vu cette information. Elle a pris la parole via son avocate. La femme violée à Nantes, je vous rappelle, samedi dernier, par deux Soudanais présumés innocents, faut-il le rappeler. Elle a pris la parole via son avocate, qui s'appelle Anne Bouillon, et elle rejette l'amalgame facile et erroné fait entre immigration et délinquance. Il y a, au choc de l'agression, voici, Anne Bouillon, voici ce qu'elle a écrit, l'avocate. Au choc de l'agression vient pour elle s'ajouter la consternation de ce que certaines, d'ailleurs j'ai volontairement gardé l'écriture inclusive, puisque Madame Bouillon s'est exprimée en écriture inclusive, ce qui évidemment fait sens. S'approprie les faits dont elle a été victime pour stigmatiser les migrants et les désigner comme responsables premiers de l'insécurité qui régnerait dans notre pays en général et à Nantes en particulier. Elle clame son attachement profond et indéfectible aux valeurs humanistes que sont l'accueil de celles et ceux également, c'est une référence très précise. Et c'est pour ça que chaque mot, les mots sont idéologiques, si j'ose dire, ou révèlent en tout cas une idéologie qui cherche refuge et l'ouverture aux autres. Ce qu'elle a subi et qu'il a perpétré n'y change rien. Voilà. Très intéressant. Ça, moi, je trouve que c'est vrai.
N'y change rien, c'est ce qu'il faut retenir du
voilà.
message.
Voilà.
Oui. Rien ne change.
Voilà. Non, mais c'est alors, attendez, c'est une parole de victime.
Bien sûr.
Donc, c'est intéressant de dire et de voir comment elle s'est exprimée oui, sur ce sujet.
On atteint un stade où certaines victimes sont tellement idéologisées à certains égards qu'elles en finissent par continuer à conserver un discours militant ou en tout cas politique qu'elles ont le droit de tenir naturellement.
Elle a le droit.
Mais qui est un discours militant et politique qui, même quelqu'un qui aurait peut-être, je ne sais pas moi, son fils ou sa fille qui se ferait assassiner, continuerait à dire oui, mais enfin, il ne faut pas faire d'amalgame, même si cette personne-là a été assassinée par... Vous voyez, y a, à un moment donné, c'est tellement intégré et que ça finit par être absolument incroyable, quoi. Contraire à...
Et certains verront dans sa réaction, et je ne doute pas d'ailleurs que certains prendront cette déclaration pour l'utiliser ou l'instrumentaliser, dire regardez, cette femme, elle a été violée par deux étrangers, mais elle ne dit pas que c'est l'immigration qui est responsable.
Ça peut même être érigé d'ailleurs comme un modèle de vertu. Dans notre époque contemporaine, que de ne pas avoir de haine pour les personnes qui vous auront assassiné, violé.
Un amalgame avec quoi ?
De mettre un rapport direct entre délinquance et immigration.
Pourquoi ça n'existe pas ?
Cette avocate, non.
Pour cette avocate, non. Elle refuse l'amalgame. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que Jean-Marc Morandini, qui était hier à Nantes, était avec Bassène Assé, qui est le premier adjoint, en tout cas, qui
totalement dans le déni,
qui est de la mairie. Et justement, il y a eu cet échange que je voulais vous montrer sur le rapport entre immigration et délinquance. Écoutez cet échange qui était très intéressant hier.
Sur la question des migrants, puisque vous posez la question, moi, je ne vais pas tortiller. Hein. Faire l'amalgame entre les migrants et la délinquance, c'est une honte. En revanche, considérer que quand il y a trafic de drogue, il y a aussi trafic d'êtres humains qui projettent un certain nombre de jeunes gens, comme peut-être ceux que vous avez vus tout à l'heure, qui sont là pour vendre ce que les trafiquants de drogue internationaux apporte sur ce territoire et sur le territoire européen en général, oui, ça peut arriver.
Le nombre de migrants dans la ville n'est pas un problème.
Et ça ne concerne pas vous connaissez le nombre de migrants. Moi, j'ai pas de chiffres précis là-dessus.
C'est dommage. Et vous travaillez la mairie. Moi, j'y travaille pas.
Mais la mairie, elle gère pas le fait de délivrer des papiers ou de ne pas délivrer des papiers.
Faire l'amalgame entre délinquance et immigration, c'est une honte, dit Monsieur Basset. Est-ce qu'il a raison ?
25% des condamnés détenus en France sont des étrangers. C'est un fait. Et j'avais un peu plus loin, je dirais que 60% des condamnés détenus, je pèse mes mots, et j'assume la responsabilité de ce que je dis, dans les prisons françaises, sont d'origine immigrée. Donc s'il n'y a pas de lien entre l'immigration...
Le chiffre, vous le sortez d'où ?
Je le sors d'études sociologiques, notamment de Farhad Koskoukoubar, qui a fait une étude dans les prisons françaises, qui a été relayée par une commission d'enquête parlementaire, et qui, à partir des menus, à partir de la pratique d'une religion, etc., a démontré qu'en réalité, il y avait à peu près 60%, et quelquefois beaucoup plus dans certaines prisons, notamment Fleury-Mérogis, par exemple, qui sont d'origine immigrée. Que l'on veuille ou non, l'immigration est à l'origine d'une très large partie de la délinquance en France. C'est un fait. C'est pas être xénophobe que de le dire. C'est un fait. Et ceux qui ne le voient pas en face, ceux qui ne veulent pas le considérer, je pense, aux politiques, alors évidemment,
vous connaissez l'argument
majeur,
vous connaissez l'argument
d'avoir
contraire.
Ce qu'avait dit à un certain moment le ministre intérieur Gérard Collomb, ils sont côte à côte, demain ils seront face à face.
Bon, voilà. Vous connaissez l'argument qu'on vous opposera, c'est-à-dire en fait, ceux qui sont dans les prisons sont des gens qui sont en situation économique très faible, c'est la misère, et au sein de la misère, l'immigration est surreprésentée.
Il y a longtemps que l'on sait, que la misère n'est pas à l'origine de la délinquance.
Oui, voilà. Non, mais
toutes les études le démontrent.
J'apporte la contradiction et celle qui pourrait vous être opposée.
C'est une fausse opinion. La misère n'a jamais généré
de la délinquance. Et d'ailleurs, il y en a un qui l'a reconnu à un certain moment, ça a été Lionel Jospin.
Il y a plus, de délinquance.
Il a dit, j'ai péché par naïveté, j'ai cru qu'en faisant reculer le chômage, je ferais reculer la délinquance.
Il y a plus de délinquance peut-être dans des quartiers misérables que dans des quartiers ultra riches.
Non, oui ou non, ils vivent assez royalement du trafic de stupéfiants, il faut quand même le rappeler. Il y a une criminalité souterraine qui est très lucrative. Et puis il y a un choix de vie aussi. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui préfèrent.
C'est trop radical dans l'autre sens parce que c'est un facteur, on le sait depuis Victor Hugo. Voilà, Victor Hugo l'a même mis sous forme.
Mais on n'en est plus autant des misérables.
Il reste des misérables. Et il est évidemment plus facile dans certaines conditions de ne pas verser dans la délinquance que dans d'autres.
Mais on n'a plus autant de Cosette et Jean Valjean.
Ça ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Il y a des gens qui vivent dans des conditions très mauvaises qui ne deviennent pas délinquants. C'est même l'immense majorité de cette population.
Heureusement.
De là à évacuer totalement le caractère social, je trouve ça complètement abusif dans l'autre sens, je vous le dis franchement.
Bah écoutez, moi, c'est mon opinion, parce que j'observe ça depuis des décennies, et j'observe qu'en réalité, ça n'est pas la misère et les conditions sociales qui génèrent de la délinquance. Ce ne sont pas les chômeurs qui commettent des actes de délinquance. Non, mais c'est clair.
En partie, je ne vous dis pas que ça
explique pas
tout.
Mais pas du tout. Les chômeurs ne commettent pas d'actes de délinquance. Vous passez d'un extrême à l'autre. Ce sont ceux qui vivent de la délinquance de manière, je dirais, d'habitude. Ce sont des gens qui vivent d'une criminalité souterraine. Voilà.
Ça, c'est sûr.
Bon, je voulais en tout cas vous faire écouter Johanna Roland qui a pris la parole hier sous forme de tweet et qui effectivement a dit la situation à Nantes est grave. Donc, ce qu'elle n'avait jamais dit dans ces termes-là avant. Et ça, il faut reconnaître cette... je ne sais pas si c'est avancé, mais en tout cas cette prise de conscience, vous appelez ça comme vous voulez. Et Mme Roland, maire de Nantes, s'est donc exprimée. Écoutons-la.
À Nantes aujourd'hui, la situation est plus que préoccupante. La situation est grave. Les Nantaises et les Nantais veulent, vous voulez, et c'est bien légitime, pouvoir vous promener tranquillement dans votre ville, rentrer après le travail, le jour, le soir. Nous voulons que nos jeunes filles puissent aller tranquillement danser, si elles le souhaitent. Votre droit à la sécurité, c'est un droit le plus légitime, et je suis déterminée à le protéger. Nous doublons les effectifs de police municipale et métropolitaine pour que des équipes puissent patrouiller dans les quartiers, dans le centre-ville, dans les transports. Nous aurons, fin 2023, 200 caméras à Nantes, alors qu'il n'y en avait aucune quand j'ai été élu maire. Nous allons continuer à muscler notre action, renforcer notre action. Mais quand il s'agit de lutter contre le trafic de drogue, de lutter contre le trafic de stupéfiants, alors oui, c'est bien la responsabilité de l'État de l'agir. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, il me recevra en urgence mardi matin. L'État doit déployer sur Nantes davantage de moyens en matière de police, mais aussi en matière de justice pour rétablir l'ordre et la sécurité. Je refuse que notre ville soit abîmée par les questions de sécurité. Pour cela, l'État doit être au rendez-vous.
D'abord, Mme Roland a eu raison de prendre la parole, parce que souvent on lui reprochait de ne pas prendre la parole. Elle a, d'une certaine manière, déminé ces sujets, puisqu'elle dit, effectivement, la situation est préoccupante. Elle a sans doute raison de demander des moyens supplémentaires à l'État. Et il me semble que ce qui intéresse les Nantais et puis nous, c'est que ça aille mieux à Nantes. Et que là, on peut être quand même...
Vous avez une manière de présenter les choses qui est incroyable. J'essaye
d'être positif.
D'abord, le bandeau est fautif. Ce n'est pas Mme Roland sort du silence, c'est Mme Roland sort du déni.
Alors,
où j'ai eu des hallucinations auditives, sur ce même plateau, nous avons entendu l'adjoint à la sécurité nous dire qu'il n'y avait pas de problème. Ça date d'une semaine.
Oui, bah, ça a changé.
Que les caméras, c'était pas tellement la peine d'en mettre. Là, j'apprends qu'il va y en avoir 200. Donc, écoutez, il y a un triple salto arrière avant, et puis vous nous dites, Madame Roland, vraiment sort du silence.
Mais chacun peut.
C'est du foutage de gueule.
Mais pourquoi vous dites ça?
Parce que c'est du foutage de gueule. Parce que
j'essaye d'être positif.
C'est de la com. C'est pas incommunicable. Devant quelqu'un qui récite un texte comme un lapin pris dans les phares, qui va annuler des années et des années de renoncement.
Sortir du délire,
ou du silence. Ce qu'elle dit, si j'avais dit exactement ça, il y a 15 jours, j'aurais été traité de fasciste en disant les gens ont droit à la sécurité, les femmes ont le droit d'aller danser. Vous imaginez, elle dit, les filles de Nantes en plus, sont célèbres pour leur danse,
ont le droit d'aller danser.
Exactement.
Cette
tradition de la danse à Nancy Vivas, elle a le droit. Vous vous rendez compte, ce discours?
Oui.
Combien
eh bien, elle a changé.
Non, elle a changé. Elle n'a pas changé. Elle a changé de discours.
Oui,
voilà.
Alors, mieux
vous jouez les faux naïfs, on vous connaît.
Vous
jouez les faux naïfs, on vous connaît.
Non, j'essaye.
Mais si on vous connaît.
Mais, oui, ça, oui. Vous soyez faux naïfs. Je veux dire, On a mis au cœur de l'actualité Nantes depuis 15 jours ou 20 jours parce qu'il y avait beaucoup d'événements. Je m'aperçois que les choses peuvent évoluer de manière positive. Je m'en réjouis et c'est ce qui importe.
Oui, mais là où Eric a raison, c'est de pointer le double salto arrière. Et les personnes qui viennent d'entendre Mme Rolland, je leur conseille de ne pas tenter chez eux seuls ce mouvement, parce que c'est extrêmement dangereux.
Ah, vous êtes terrible. Les derniers chiffres publiés en septembre sur les tendances lourdes depuis plusieurs mois sur la sécurité. Chiffres de septembre, nous sommes d'accord. Les violences gratuites augmentent, coups et blessures volontaires de 17% depuis le début de l'année, par rapport à 2021. C'était une information que donnait RTL ce matin. Les violences sexuelles également, de 15%. Libération de la parole, plus meilleur accueil dans les commissariats et les brigades, plus 15%. Les violences crabuleuses, vols violents, restent globalement stables, mais en baisse de 10 à 20% par rapport aux chiffres d'avant le confinement. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, puisque les violences gratuites augmentent, c'est ça qui est frappant. Coups et blessures volontaires de 17%. À Nantes, la tendance est identique. Les atteintes aux biens violentes ou non violentes baissent. La délinquance globale baisse, mais les atteintes aux personnes augmentent.
Oui, c'est un constat qu'on avait fait l'année dernière. Déjà.
Ça, c'est vraiment...
Globalement, si vous voulez, la délinquance contre les biens, les cambriolages, les vols de voitures, etc., baisse.
Oui.
Mais à côté de ça, vous avez une explosion, on peut dire, de la délinquance. 17%, c'est énorme, hein. De la délinquance violente, c'est-à-dire les actes gratuits, les règlements de compte, entre mineurs aussi souvent.
Je pense que cette délinquance, elle augmente absolument partout et que finalement, c'est peut-être un point où Johanna Rolland a probablement raison, c'est que ça n'augmente pas qu'à Nantes. Par conséquent, c'est aussi la responsabilité de l'État.
Je suis d'accord.
À un moment donné, si l'État ne change pas son logiciel idéologique, notamment quant à l'immigration au niveau national, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Mme Rolland qui fixe les quotas migratoires dans ce pays, ou plutôt les non-quotas. Par conséquent, c'est du côté de Beauvau et du côté du président de la République qu'il faut aller regarder ce qui se passe en matière d'insécurité dans ce pays, mais dans toutes les grandes métropoles.
Regardez où ça marche, à Nice par exemple.
Alors,
Nice, c'est un mauvais exemple, je pense.
Pourquoi
parce que le prix de l'immobilier et le niveau de vie à Nice
et la sociologie de Nice
fait que c'est une ville à part. Parce que vous
là où il y a de l'argent, ça attire de la délinquance.
Regardez, par exemple, M. Moudinque à Toulouse, il est de droite. M. Moudinque, pour autant, ça ne va pas beaucoup mieux.
Les délinquants vont là où il y a de l'argent.
Il y a de l'argent, le délinquant. On dirait du Audiard.
Regardez, à la sortie des hôtels, les gants qui volent des voitures, des montres.
À part Nice, vous avez peu d'exceptions.
Si vous permettez, Paul,
il y a une vraie politique de
sécurité. J'ai eu quelques conversations hier avec des responsables de Nantes et ce qu'ils disent et ce qu'ils s'entendent aussi, je le rapporte ici, c'est ils disent voilà, il y a le focus médiatique qui est fait sur Nantes, mais Nantes n'est pas pire que Bordeaux, n'est pas pire que Montpellier, Nantes n'est pas pire que Rennes, Nantes n'est pas pire que Toulouse, etc.
Je pense que la situation est chaotique partout.
Voilà,
c'est censé nous rassurer.
Oui, c'est ça.
Non, mais ils ont Nantes, voilà, donc pas rassuré.
Mais il faut rajouter à Nantes maintenant.
Voilà, j'essaye d'être ça.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est quand même...
Vous me traitez de faux naïf, c'est pas gentil. L'honnêteté intellectuelle, pour vous, c'est de la fausse naïveté. Non.
Avec vous, ça se confond souvent.
Non,
Pascal, voilà,
est-ce qu'on peut revenir à ce chiffre des 17%, où Georges a souligné à juste titre que, vraiment, cette augmentation est énorme, elle est absolument inquiétante. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ces violences ne sont pas faites dans le but de voler, de s'approprier un bien, mais c'est tout simplement fait parce que vous avez croisé une personne et que votre regard n'a pas plu à cette personne, par exemple, que vous avez frôlé cette personne ou que vous êtes sur le territoire de cette personne. Bref, ce type de violence est une violence irrationnelle. Et c'est là où on revient à l'analyse de Maffezoli. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est une violence de pulsion, c'est une violence irrationnelle et c'est une violence qui pose un problème de logiciel, mais de logiciel de civilisation.
On va marquer une pause, mais nous avons un interlocuteur en direct de Rennes qui manifestement n'est pas sur la tendance de la mairie de Rennes, qui me précise que pas plus tard qu'hier soir, la mairie de Rennes signe une convention avec Avita, qui est une association contre les frontières. C'est intéressant parce que toutes ces villes, en fait, à Rennes, à Nantes, aux dernières élections, la NUPES était en tête. Oui. Donc, alors que la maire de Nantes est PS et la maire de Rennes est PS. Ils sont complètement débordés.
Mais c'est très intéressant que ce soit sur le sujet des frontières, parce que je trouve cet exemple fascinant.
Bien sûr.
Le sujet des frontières est le cœur de l'affaire, et que ce soit à la mairie de Rennes, à la mairie de Nantes, dans toutes les grandes mairies écolo ou socialistes, on ne veut plus entendre parler de frontières.
Voilà.
Et quand on lit les travaux de Régis Debray sur l'éloge des frontières, on comprend pourquoi les frontières sont importantes.
Et moi, j'invite tout le monde à aller voir cette association Avita, qui a mis à la une des maires engagés, évidemment en écriture inclusive, pour l'accueil des exilés, toujours en écriture inclusive. Et la mairie de Rennes, hier, a signé, manifestement, je ne sais pas si c'est une convention, si elle a signé...
Le Parti Socialiste essaie de rattraper les...
Elle a signé une convention avec Habitat. Donc voilà, c'est ça le double discours. Mais bien sûr, faut accueillir tout le monde.
Voilà,
pour la mairie de Rennes, il faut accueillir tout le monde. Et exactement, pour des raisons idéologiques.
Pas Schengen, il n'y a plus de frontières.
Dans une seconde, on parlera du préfet de l'Hérault qui a mis un tweet hier qui fait polémique puisqu'il l'a retiré également très rapidement sur son compte officiel. Il s'appelle Hugues Mou.
Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy.
Exactement. Et il a déclaré que les SDF étrangers n'étaient pas les bienvenus.
Oui. Bon, c'est pas un langage préfectoral.
Oui, je suis d'accord avec vous, mais
il dit
la réalité. Est-ce que les sans domicile fixe étrangers sont les bienvenus en France ? Je vous pose la question.
Non, mais
voilà. Je dirais dans
l'écriture ou la phrasée d'un préfet.
Georges Fenech.
Mais Georges Fenech, qui est un grand spécialiste des questions de sécurité, a raison.
Georges Fenech. Est-ce que ce pays va changer de logiciel, oui ou non ? Vous me parlez de l'écriture. On n'en est plus là de savoir comment faut s'exprimer, pas s'exprimer, etc. Même vous, vous tombez là-dedans. Vous dites, on n'écrit pas comme ça quand on est préfet. Et pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est une prise de position à caractère un peu politique.
Et
un préfet ne fait pas de politique. Un préfet applique une politique, qui est celle du ministre de l'Intérieur. D'accord. Donc le fait de dire, je pense qu'ils ne sont pas les bienvenus, c'est un choix un peu personnel. Mais encore une fois, c'est très courageux.
Patrick Sébastien sera là tout à l'heure et vous aurez une petite surprise parce que je vais vous demander de faire la chorégraphie.
On n'a pas de serviette.
La chorégraphie d'une des chansons pourvu que ça dure, la belle figure. Voilà.
D'accord.
Et oui, un peu de.
Je
voudrais que vous gardiez votre âme d'enfant de temps en temps, alors que vous êtes que des adultes.
Et c'est assez. De plus en plus.
C'est assez désespérant d'être avec vous parfois. La pause. <rire> 9h32, Audrey Berthoud.
L'électricité coûte moins cher en France que chez nos voisins européens. C'est ce que révèle le comparateur HelloWatt. L'électricité coûte deux fois moins cher dans notre pays. Vous le voyez, cette année, le prix moyen était de 21 centimes. Le kilowattheure compte 56 en Allemagne, par exemple. Cela s'explique par la protection mise en place par le gouvernement en pleine période électorale, ainsi que le bouclier tarifaire. En Iran, les manifestations continuent après la mort de Mahsa Amini. La répression de ce mouvement de contestation a fait des dizaines de morts depuis mi-septembre. Des cinéastes, des athlètes, des musiciens et des acteurs iraniens ont exprimé leur solidarité avec les manifestants. Enfin, au Brésil, dans une vidéo TikTok, Neymar soutient Bolsonaro à la présidentielle. Dans cette vidéo, l'attaquant du Paris Saint-Germain, qui compte plus de 8 millions d'abonnés sur TikTok, mime en souriant une chanson qui appelle à voter Bolsonaro. Un soutien de poids, Bolsonaro a rapidement tweeté la vidéo de Neymar en ajoutant comme commentaire « Merci Neymar ».
Très intéressant, ça, effectivement, le soutien de Neymar. Je vous disais, le préfet de l'Hérault, donc, dans un tweet posté hier après-midi, qu'il a enlevé ensuite, le préfet de l'Hérault, qui s'appelle Hugues Moutou,
qu'on connaît bien, qui est un grand spécialiste des problèmes de sécurité, qui a été notamment conseiller Nicolas Sarkozy à l'Élysée et dans d'autres ministères, n'a jamais eu effectivement la langue dans sa poche. Et je crois qu'un préfet, il faut faire attention. Voilà.
Oui, il faut faire attention. Un président ne devrait pas dire ça. Les propos du président de l'État stigmatisant les SDF algériens et marocains sont clairs et sans filtre. Peut-être trop, justement, car deux heures plus tard, ce tweet avait disparu. La sécurité et la lutte contre la délinquance ont toujours été les priorités du préfet de l'Hérault depuis son arrivée à Montpellier en juillet 2021. Il s'est notamment attaché à faire disparaître les bidonvilles dans la métropole. Et il est aussi à l'origine de villages de transition installés dans le quartier de la Rose pour accueillir les Roms. Depuis plusieurs années, il est une renommée le préfet bulldozer.
Oui, c'est ça.
Bon. Alors Éric Zemmour a tweeté « Bravo au préfet de l'Hérault qui a dit la vérité avant de supprimer sa publication. Sans doute la vérité fait-elle peur à sa hiérarchie ?» Alors vous avez rappelé effectivement qu'un préfet ne fait pas de politique. Un préfet est le représentant de l'État pour appliquer une politique qui est décidée à Paris.
C'est ça.
Sur le fond maintenant. Bon, ils mélangent les genres, mais sur le fond, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire que les SDF étrangers ne sont pas les bienvenus. Il y a un autre truc qu'on n'a pas le droit de dire, c'est par exemple que les déboutés du droit d'asile n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Et sinon, ça veut dire qu'on leur réserve le même sort qu'à ceux qui ont obtenu le droit d'asile parce qu'ils sont menacés dans leur pays. Mais de simples faits comme ça, on ne peut même plus les énoncer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cela dit, venant d'un préfet, oui, c'est assez maladroit parce que non seulement il ne devrait pas le faire, mais en plus, il enterre le débat, en réalité, puisqu'on est en train de se focaliser sur est-ce qu'il aurait dû le dire ou pas, au lieu de s'intéresser aux faits et à la nécessité de dire ce genre de
choses. Mais vous imaginez-vous, par exemple, qui venait de la gauche, qui venait de la gauche républicaine, dire ça, vous, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que vous avez une part de responsabilité? Est-ce que la gauche n'a pas vu venir des choses dans les années 80? Eugénie Bastier soulignait que SOS Racisme à l'arrivée a été un drame.
Bien sûr.
D'une certaine manière, il y a un bouquin qui ressort de Paul Yonnet, qui est en 1993, qui avait été vilipendé à l'époque. Est-ce que vous trouvez que vous êtes trompé?
Moi, je dis que pour en arriver à une situation si catastrophique, il a fallu que tout le monde y mette du sien. Donc la droite a sa part de responsabilité, elle a fait preuve d'aveuglement. Mais l'aveuglement de la gauche est plus grave, à mon sens, parce que ça a été un aveuglement militant. C'est-à-dire que nous avons, en effet, à gauche, collectivement, c'est à 89, la ligne de rupture, 189. C'est l'affaire du voile du Creil. Les deux gauches irréconciliables sont nées. Il y a ceux qui ont eu le réflexe républicain tout de suite, et il y a ceux qui ont pactisé avec l'islamo-gauchisme tout de suite. 30 ans plus tard, un peu plus de 30 ans plus tard, ça donne deux voies qui ont complètement divergé, avec une gauche, qui est celle de la France insoumise et de la NUPES plus généralement, qui est complètement engluée dans son idéologie.
Pardon ? Qui est majoritaire.
Mais qui est ultra majoritaire. Voilà. Mais écoutez, moi je prends l'exemple des pays de l'Est, c'est les dissidents qui ont fini par gagner à la fin quand même. Et personne ne croyait que l'Union soviétique s'effondrerait et que toutes les républiques démocratiques dites démocratiques
s'effondreraient. Je ne suis pas sûr que la droite dite républicaine ait été plus claire avec ces questions-là, à certains égards. Entre une droite orléaniste à la Juppé, etc.
Oui, mais pourquoi?
Souvenons-nous qu'Alain Juppé à Bordeaux, par exemple, il n'a pas fait grand-chose non plus contre
l'insécurité. Pourquoi la droite elle était obsédée de se démarquer de Jean-Marie Le Pen. Et c'est ça le paradoxe. Le Pen a sans doute produit sur la société française dans les années 80 peut-être la bonne analyse.
En tout cas,
comme il l'a produit, lui, il fallait surtout se démarquer de ce qu'il disait, parce qu'il ne fallait pas être proche de Jean-Marie Le Pen. Mais j'ai passé ici, déjà deux fois, je vais bien le repasser une troisième fois, une interview de Jean-Marie Le Pen avec Pierre-Luc Séguillon, on est en 1991, où il dit tout. Où il dit tout de la société d'aujourd'hui. Mais dire que Jean-Marie Le Pen ne s'est pas trompé sur ce sujet-là en 1990... C'est inflammable. Convenons-en. C'est pour ça que.
Il y avait déjà une réflexion idéologique de la gauche.
Convenons-en.
L'erreur des politiques. Elle faisait pression sur le débat, probablement. Je suis d'accord avec Éric Nolot, la droite a aussi sa part de responsabilité. C'est d'être passé d'une immigration de travail, une immigration de peuplement, avec le regroupement familial qui avait été décidé
par Valéry Giscard
d'Estaing et qui nous a amené à cette situation.
Oui, mais personne n'avait vu ça. Elle a été aussi dévoyée. Quand Giscard fait ça, il n'imagine pas ce qu'il. Je veux dire.
Il a dit après qu'il.
Qu'est-ce que vous voulez. Il y avait aussi des. C'était parfois pour des. J'allais dire de bonnes raisons. Des raisons. C'est comme le voile. Je veux dire, les raisons qui motivaient cette gauche-là, c'était des raisons de tolérance, de dire attention, voilà, vous avez le droit de vivre avec votre identité, avec votre culture, avec vos mœurs, au nom de la tolérance.
Mais non, mais ça se passait dans une école publique, laïque. Et la gauche dit, attendez, on va s'asseoir sur les principes les plus fondamentaux de la République, c'est-à-dire même la laïcité, c'est pas rien en France, et on va accepter de décorner ce principe. Excusez-moi, c'est pas de la tolérance,
ou de comprendre.
C'est de la soumission, c'est de la reddition en race campagne. 30 et quelques années plus tard, voilà la situation qui est devenue irréversible.
Alors qu'on aurait sans doute raison. Internet en prison. Ça m'intéresse. Vous avez vu peut-être le débat, on va voir le sujet de Michael Dos Santos. Une lettre ouverte signée par plus de 600 personnes et organisations demande à Elisabeth Borne de permettre l'accès à Internet dans les prisons. Donc on avait déjà Interville dans les prisons, c'était cet été. Maintenant, on va voir
Koh-Lanta.
Ou Koh-Lanta. Je veux dire, on peut Internet dans les prisons. Bon, pourquoi pas d'ailleurs. Mais
pourquoi pas. Ça veut dire que.
Mais bien sûr, pourquoi pas. Pourquoi pas.
Vous ouvrez donc les prisons. En réalité, oui, et bah, vous permettez à des détenus qui ont peut-être quelques arrière-pensées encore. Je ne sais pas moi.
Mais paraît-il que tout le monde a un portable.
Un peu radicalisé. Non, bah il y a
tout le monde a
des portables circulent.
Il y a à peu près bonhomme à l'an 30 000 portables saisis en prison par an.
Oui. Et il y a combien,
imaginez, il y a combien de 30 000 portables ont saisi par an. Et 60 000 détenus.
Donc ça veut dire
70 000.
Bon, alors si vraiment t'as pas de portable en prison, c'est que t'es.
Oui, mais ça n'est pas légal. Ce que je veux dire par là, c'est que l'utilisation du portable n'est pas autorisée.
Il y a peut-être.
Non, mais vous plaisantez.
Mais je plaisante parce que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pareil, tout le monde a un portable en prison. Moi, j'y vais.
En infraction avec les règlements. Il s'agit
alors,
pas d'une autorisation.
De Dos Santos et voyons, vous me direz si un
vous
internet.
Vous allez recevoir des textos. Vous allez voir. Vous allez recevoir des textos.
Bah, de prisonniers.
Oui.
Bon. Il y a des gens qui me disent qu'arrive-t-il à Éric Nolot. C'est vrai. Les gens, vous surprenez les gens. Hein, vous allez finir à l'extrême droite. Hein.
Mais non, vous savez, c'est très simple. Le discours que je tiens il y a 20 ans serait fait de moi un homme de gauche pur et dur.
Oui.
Aujourd'hui, si, la gauche laïque, la gauche républicaine, c'est une vieille
tradition.
C'est vrai
tradition. Quand vous lisez les discours, par exemple, de Georges Marchais en 81, il dit qu'il faut mettre fin à l'immigration légale et illégale, Georges Marchais.
Les années 70, moi j'aime bien les années 70.
Années 70.
Mais comme tout le monde a dévié maintenant, le même discours, moi j'ai pas changé de discours, ça fait de moi un fasciste et même maintenant c'est nazi. Maintenant je suis un nazi, c'est un peu excessif.
Marqué à gauche,
même si,
je ne suis pas très nostalgique du Troisième Reich. J'ose le dire avec force ici. Je ne suis pas nostalgique.
En tant qu'ancien directeur de ce canard, il y a quand même eu, sur l'immigration, pardonnez-moi, un hebdomadaire qui a toujours été sur cette ligne, c'est Marianne. Toujours.
Et qui est à gauche.
Toujours. Et à cause de ça, évidemment, ça a été considéré comme un journal, mais vraiment sulfureux.
Mais ce qui montre aussi l'opinion.
Internet dans les toujours.
Et je collabore aujourd'hui à Marianne.
Voilà. Donc, au moins, c'est cohérent. Voilà.
Vous êtes un collaborateur.
Oui.
Je vais.
De Marion.
De Marianne. Prison et Internet. Michael Dos Santos.
À travers cette lettre ouverte, les signataires veulent que l'accès à Internet pour les détenus s'installe dans le débat public. Pour cet élu socialiste, le sujet est une priorité.
Avoir un accès à Internet de manière contrôlée, sécurisée, non totale, c'est une manière pour eux de mieux se préparer à un retour à la vie civile. Comment voulez-vous, par exemple, faire une recherche active d'emploi pour le jour où vous sortez de la prison si vous n'avez même pas accès à Pôle emploi ?
Pour les syndicats, une telle mesure ne ferait qu'accroître les dangers. Gérer des deals à distance, faciliter les évasions, contacter les victimes ou encore s'attaquer au personnel pénitentiaire.
On a eu encore un incident là. Aujourd'hui, un personnel pénitentiaire qui a été suivi par un ex-détenu à la prison de la Santé et qui a été frappé dans les transports en commun. Enfin voilà, cette possibilité de pouvoir comme ça aller sur Internet, trouver des renseignements sur les personnels peut être tout aussi dangereux.
Avec l'omniprésence des téléphones portables, les dangers liés à Internet existent déjà. Certaines prisons tentent d'y remédier.
On essaye de mettre en place quand même des brouilleurs avec le succès qu'on connaît. On a positionné des brouilleurs et ça a déchaîné un petit peu la passion des détenus.
En 2020, un rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a conclu que l'accès à Internet entravait certains droits fondamentaux, parmi eux la liberté d'expression ou encore le droit à l'éducation.
Les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, Internet est permis.
Ça, je sais pas.
Bah, c'est moi qui vous le dis.
Ah,
ça m'arrive de. Bah, oui, vous savez que parfois, ça m'arrive rarement de travailler avant de rentrer sur un plateau de télévision. D'essayer de nourrir le débat.
On va faire un check, hein, on va vérifier quand même.
Bah, mais pourquoi vous dites ça, qu'on va faire un check? C'est agréable.
Peut-être qu'il y a aussi.
Vous avez trouvé ça sur Internet d'abord.
Peut-être qu'il y a aussi une procédure de contrôle de l'usage qui en est fait par les détenus.
Oui, ça dépend ce qu'on a.
C'est pas la libre accès à Internet.
Vous êtes pour ou contre?
Ah, moi, je suis totalement contre.
D'accord.
Je suis
pourquoi
totalement contre. Parce qu'Internet, c'est aussi communiquer avec Daesh, par exemple. Par exemple.
D'accord.
Ah oui.
Non, mais c'est doublement terrible.
Bon. Parce vous que, êtes
un,
tous contre.
En effet, il y a toutes les dérives qui ont été dites. Et deux, ça donne vraiment l'impression, ce qui n'est pas vrai. Moi, j'ai rendu visite à de nombreuses prisons dans le cadre de concours d'écriture. On dirait vraiment que c'est le Club Med. Ils ont tous Internet, ils ont tous des téléphones, ils font tous des parodies de Koh-Lanta.
Du karting.
Ou du karting. C'est pas vrai. Souvent, la situation des prisons est assez catastrophique du point de vue sanitaire. Bon, donc, ça donne une image qui est complètement fausse.
Mais cet argument ne doit pas être pris en compte. J'ai envie de dire, on s'en fiche de l'image.
Non, si, parce que ça finit par accréditer dans l'opinion publique que la prison, c'est une sorte de Club Med en un peu moins bien. Mais c'est pas vrai. Et là, écoutez, écoutez, toutes les dérives possibles à partir d'Internet, elles ont été listées, ça devrait suffire à clore le débat, sauf dans la France de 2022.
Bon, c'est amusant parce que je suis en train de recevoir un coup de téléphone de quelqu'un qui nous... C'est Pierre Breton qui est en train de m'appeler, donc il doit y écouter notre émission, mais évidemment, je ne peux pas lui répondre puisque je suis à l'antenne. Voilà. Donc je lui dis en direct, Monsieur Breton, je ne peux pas vous répondre. Donc il devait sans doute vouloir s'exprimer sur les prisons.
L'Internet dans les prisons.
Comment ?
Il était peut-être pour l'Internet dans les prisons.
Bah écoutez, manifestement, il était en train de m'appeler.
Des téléphones fixes qui est autorisé avec
les retraites.
Voilà. Ah ça c'est intéressant.
Les retraites. Hier, bon, alors on va voir si vous êtes fort. Tiens. Combien de motions de censure ont été adoptés sous la Ve République?
Une seule, je crois.
Non, je dirais quatre, peut-être.
Quatre gouvernements renversés? Combien de gouvernements ont été renversés sous la Ve République?
Moi, je dis un seul. Moi, non. Je crois qu'une fois, c'est arrivé.
Une fois? En tout cas, une fois, oui.
C'est arrivé une fois, je crois.
Mais c'est pas arrivé...
Quand?
Je pensais que c'était 60...
dans les années 60.
Oui, dans les années 60, c'est assez large. Oui. Alors, vous pouvez remettre en cause mes fiches, hein, franchement.
Non, mais là, bon,
l'histoire de notre pays, monsieur le député, vous pourriez savoir. Vous avez été député de la République. Oui, vous savez même pas le nombre de motions de censure. Bon, franchement,
il a beaucoup de qualité, mais il est très rancunier. Donc,
mais elle n'a pas marqué les esprits.
Ça, c'est sûr que ça n'a pas passé.
Alors, je vais vous dire.
C'est Pompidou. Oui.
Je vais vous dire, en 1962...
J'allais le dire, mais... Je...
Ah, 62, oui. C'est aussi...
Et le suffrage universel... On dirait mes enfants.
J'allais le dire.
Vous êtes...
C'est mes enfants. Mais...
62,
et quand je le dis à mes enfants, ils disent, mais c'est ce que je t'ai dit.
Non, mais 62, c'est la réforme de l'élection au suffrage universel...
Du président
de la République.
Bravo. Eh bien, je vais vous montrer un document d'archives. D'abord, parce que j'aime bien écouter le général de Gaulle. Ça nous fait plaisir et de voir que le monde a changé. Donc vous allez voir cette petite extrait de Lina, cette petite séquence qui rappelle pourquoi, comment il y a eu en 1962, c'est la seule fois sous la Ve République, un gouvernement renversé et donc
référendum.
Dissolution, non.
Et référendum sur l'élection au président.
Non, pas référendum, dissolution, ami. Donc vous vous êtes trompé deux fois. Bon, dissolution. Dissolution.
Il y a eu un référendum sur l'élection.
Oui, mais dissolution.
Ah oui. Oui.
Gouvernement renversé, dissolution. C'est ce qui pourrait... Ça serait le cas de figure d'Emmanuel Macron.
Majorité derrière.
Voyons le sujet. Archive.
Quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel.
Bien sûr, ça ne plaît pas aux députés. Le 4 octobre 1962, il dépose une motion de censure pour renverser le gouvernement Pompidou. Pour être recevable, elle doit être signée par au moins un dixième des députés.
C'est la République qui répond non à votre projet, car le scrutin d'aujourd'hui comptera dans l'histoire.
Le lendemain, le 5 octobre 1962, les résultats du vote tombent. La motion de censure est votée à la majorité absolue. Conséquence, le Premier ministre Georges Pompidou et son gouvernement sont renversés.
Après le vote de la censure, je suis allé remettre ma démission au président de la République, qui en a pris acte. Et comme il a dissous l'Assemblée nationale, il a estimé sans doute qu'il n'était peut-être pas utile de faire un nouveau gouvernement pour quelques semaines. Il m'a donc demandé de rester en fonction jusqu'au début de la prochaine législature.
En réponse à la motion de censure, Charles de Gaulle décide donc de dissoudre l'Assemblée nationale. Résultat, des élections législatives anticipées sont organisées. Le 25 novembre, le verdict des urnes est sans appel. Le parti gaulliste, l'UNR, remporte largement les élections avec plus de 40% des voix. La motion de censure est donc annulée et Georges Pompidou, conforté en tant que Premier ministre.
Et il faut rappeler... Ça, c'est très important que le général de Gaulle, va s'asseoir, mais littéralement sur la Constitution, il va la violer éhontément, et oui, puisqu'il va utiliser l'article 11, c'est-à-dire le référendum, pour avoir son élection au suffrage universel. Les parlementaires n'en voulaient pas parce qu'ils se sont dit on va avoir un dictateur à l'Élysée, en plus de Gaulle. Donc, il est passé outre la procédure de l'article 89 qui nécessitait. Une majorité du Parlement en Congrès, évidemment, ils étaient contre. Il a violé la Constitution, il a utilisé l'article 11 et les Français lui ont répondu oui à une très large majorité, c'est comme
mais
ça que le président...
Mais pourquoi violé la Constitution? Parce que le Conseil constitutionnel a dû valider.
Je termine. Tous les constitutionnalistes sont d'accord.
Pas le Conseil constitutionnel.
Il aurait dû passer par le Congrès, c'est-à-dire le vote des parlementaires à la majorité des 3/5. L'article 11 ne lui permettait pas de saisir le référendum.
Je vous demande d'avoir un peu de respect pour la mémoire. vous êtes un député, vous êtes un ancien député RPR. Oui. Non, mais vous n'avez pas honte. Franchement, de dire que le général de Gaulle, Georges Fenech, venez dire ici que le général de Gaulle a violé la Constitution. Ouais. Vous. Mais enfin, vous voudriez aller à Colombey, vous excuser devant la tombe du général.
Je suis allé à Colombey.
Franchement, vous devriez vous prosterner sur la tombe du général.
C'était le choix des parlementaires qui n'était pas bon. Il avait eu raison, le général de Gaulle.
Non, franchement. Tiens, moi, je pars pour Colombey immédiatement. Voilà. Pour vous excuser.
Bon, j'ai peut-être été un peu trop brutal.
Oui, un peu trop brutal. Vous savez quel âge a Georges Pompidou dans la séquence qu'on vient de voir?
65 ans.
50 ans.
50 ans.
C'est incroyable, hein? Il a 50 ans, je regardais, parce qu'il est de 1911, on est en 1962, et dans la séquence qu'on vient de voir, il a 50 ans. Ouais. Eh oui.
Et peut-être déjà...
Il mourra 12 ans plus tard. Donc
il
n'y
a
pas
de longue maladie.
Oui, non, mais simplement, on a gagné 10 ans, 15 ans, sans doute.
Il y a une déclaration très intéressante qui est passée inaperçue d'Éric Coquerel qui a dit... Si la motion de censure est adoptée, au moins il partira parlant d'Emmanuel Macron. Donc décidément, les insoumis ont beaucoup de mal avec les institutions de la Ve République. Ils pensent qu'une motion de censure, ça veut dire que Emmanuel Macron...
Ça pourrait provoquer la démission d'Emmanuel Macron.
Je vous propose une petite musique, une petite chanson plus exactement que vous allez reconnaître, parce que notre futur invité... Et je voulais savoir si vous étiez sensible à la poésie de cette chanson.
Pompidou, auteur d'une anthologie de la poésie, je n'ai pas trouvé ce texte.
Il est méchant. Écoutez ça. Écoutez.
Oh, que ça dure, la belle figure, les fêtes à Bayonne, les soirs sur la Garonne, tant que t'as de l'eau, pour laver la belette, t'as pas les carreaux, au coin de la fenêtre. Oh, que ça dure, la belle aventure, le ciel de Garonne,
vous voyez, la France, c'est De Gaulle, mais c'est aussi Patrick Sébastien. C'est ce mélange-là que moi qui me touche, c'est ce mélange de la gaudriole, mais également de l'esprit français. Et chez Patrick Sébastien, il y a quelque chose de tout à fait amusant, c'est qu'il est très fin, très cultivé, il connaît beaucoup de choses, et malgré tout, il aime passer de temps en temps pour... un Français comme les autres, j'ai envie de dire, est capable de danser sur des chansons à boire, comme on disait jadis.
Chansons à boire.
Eh bien, ça, c'est l'esprit français, monsieur. Et on va le recevoir dans un instant. Georges Fenech ne sera plus là puisqu'il va partir pour Colombey, comme je le disais dans un instant. Vous avez le droit de rester uniquement si vous dites...
Il y a un sursis, alors.
Oui, uniquement si vous dites j'ai été trop loin.
Non, j'ai fauté. J'ai pas choisi les...
Vous n'avez pas choisi les bonbons. Bon, c'est comme les procès staliniens. On vient au milieu, on s'excuse, on expie.
Mais je maintiens mon propos quand même.
Bien sûr, mea culpa, mea maxima culpa. Patrick Sébastien dans une seconde.
Qui chante cette connerie?
On a bien fait d'attendre quelques secondes. Oui. Mais j'ai voulu leur apprendre la chorégraphie. Mais ils veulent pas. Alors, vous voyez, bon, vous connaissez Monsieur Nolo, mais Monsieur Nolo, bon, il a dit voilà, j'ai pas vu cette chanson dans l'anthologie de la poésie de Georges Pompidou. Après, il a dit Baudelaire n'a rien à craindre. Franchement.
Ben oui, mais il a raison. Il a raison. C'est des chansons. Tu sais que les chansons populaires comme ça sont beaucoup plus difficiles à écrire qu'un roman. Et moi,
j'irais peut-être pas juste. C'est pas plus difficile. C'est peut-être pas plus difficile à écrire qu'à la recherche du temps perdu non plus.
Ouais, mais
ça va trop loin.
On parle de chansons populaires. Écrire la connerie, enfin le truc qui va rester dans la tête des gens. Parce que le but d'une chanson, c'est d'être chanté dans la rue.
Je suis d'accord avec vous, mais c'est peut-être pas.
C'est compliqué à écrire. Non,
j'entends bien,
mais entre à la recherche du temps perdu et à la...
Évidemment. Bon. Mais je parle mais pour moi, Pascal. Pascal, bon. Je parle pour moi. Audrey écrire, Berthier. C'est plus facile pour moi d'écrire un roman, voilà. D'écrire un bouquin, d'accord. Que d'écrire. J'aimerais bien trouver une bêtise comme ça tous les jours. Tu sais, la chanson populaire. Il n'y a que dans notre pays où il y a un mépris pour cette chanson-là. Dans
non, il n'y a pas
pays,
de mépris. Non.
Ça passerait très bien.
Si, il a raison. Il y a un mépris. Si. Il y a un mépris.
Si, je parle d'ici.
Non. Alors, Audrey Berthaud nous donne les infos et on va parler de Patrick Sébastien, Vivre et renaître chaque jour. Je trouve que c'est un bouquin formidable.
Emmanuel Macron se rend à Pau aujourd'hui. Le chef de l'État inaugure un centre culturel. Il sera accueilli par le maire de la ville, François Bayrou, lequel a fait entendre sa voix sur la méthode de la réforme des retraites ces derniers jours. La hausse des prix à la consommation en France a ralenti en septembre à 5,6% sur un an, contre 5,9% en août. Ce sont les données de l'INSEE. Ce recul de l'inflation est dû au ralentissement de la hausse des prix de l'énergie et des services, selon l'Institut, tandis que la progression des prix de l'alimentation s'accélère. Enfin, Michel Polnareff dévoile une nouvelle version de Lettres à France. Le chanteur sortira le 18 novembre. Polnareff chante Polnareff, un album de reprises de ses propres chansons. Ces reprises devraient d'ailleurs être présentées au public lors de concerts. La dernière tournée de Michel Polnareff en France date de 2016.
Sublime. Depuis que je suis loin de toi.
Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi, et je pense à toi tout bas. Tu es de moi.
Sublime chanson. D'ailleurs, Polnareff, personne n'a jamais imité. Hein. Il est. Ah bon ? Ah bon ?
Ouais, ça a été imité à l'époque. Oui, oui.
Bon, j'ai lu votre bouquin. À votre avis, je vais commencer par quoi ?
La politique ? Non.
Non, à votre avis ?
Je sais pas.
Bon, arrêtez. Qu'est-ce qui fait qu'on parle pas mal de votre bouquin et
bah, il y a plusieurs choses. On oublie. Bah, tu sais, on sait quand on sort un bouquin comme ça, étant donné que je me suis lâché, que tu as des sites, des machins qui vont me prendre un truc appuyé, faire le buzz sur un truc plutôt que sur autre chose.
Alors,
le fond du livre, si je peux me permettre. Le fond du livre, c'est d'expliquer, après toutes les merdes que j'ai eues là pendant deux ans, ben surtout comment on se sort et comment on reste vivant, debout, après beaucoup d'épreuves. C'est ça que je veux surtout transmettre.
Après, alors, oublions le fond.
Moi, oublions le fond, je ne sais pas, mais lisons. Dans la nuit du 5 janvier, j'ai envoyé un SMS au président Macron.
Ah oui.
Juste pour te dire qu'après les injections, moi qui n'avais aucune pathologie avant, je me suis retrouvé avec un prédiabète, une prostatite et maintenant un cancer du rein. Je ne regrette pas les trois vaccins, je sais qu'ils m'ont protégé d'une forme grave, mais s'il y a un quatrième, je ne le ferai pas. Je n'ai plus confiance, je veux juste t'alerter parce qu'autour de moi, les cas d'effets secondaires se multiplient. Il m'a répondu. Je suis surpris de ton truc tout de même. Écoute, vaccin et passe nous évitent beaucoup de merde. Je pense que tes problèmes n'ont pas grand-chose à voir avec le vaccin malgré tout, mais ce que tu dis m'inquiète et je vais surveiller. J'ai renvoyé à mon tour. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un lien. Je préfère t'alerter parce que je sens une suspicion chez les gens. Et de plus, je trouve le passe vaccinal inutile. Réponse, pas moi, mais j'entends ce que tu me dis. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un lien. Vous pensez qu'il y a un lien entre le vaccin ce qui vous est arrivé ?
J'ai expliqué très clairement. Moi, j'ai fait les. Tu sais, quand je suis malade, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je vais voir un toubib. Et mes toubibs, au moment du Covid, m'ont dit écoute, fais les trois vaccins, les deux à l'époque, ça va te protéger d'une forme grave. Donc, je les ai fait. Donc, je ne suis pas anti-vax. Moi, j'ai fait les vaccins. Et puis, il se trouve que. Après, j'ai commencé à avoir, au bout de 15 jours après, un mois, j'ai eu un prédiabète, j'ai eu un début de prostatite, cancer du rein, je pense que c'était avant. Donc, j'affirme rien, parce que je n'aime pas les intégristes, ni d'un côté, ni de l'autre. J'ai dit juste
je pense qu'il y a un lien.
J'avais un doute, je pense, ça veut dire, je me dis peut-être qu'il y a un lien.
Moi, je pense que vous pensez qu'il y a vraiment un lien, que vous n'osez pas le dire, pour pas, l'espace médiatique aujourd'hui, c'est très compliqué de l'affirmer comme ça. Mais au fond, et on est tous frappés qu'il y a autour de nous des gens.
Oui.
On est tous frappés, on va pas se raconter de salade. Il y a quand même des choses.
J'ai eu une grande conversation.
Parfois, qui existent sur ce vaccin.
J'ai eu une grande conversation.
Parfois.
Rarement. Il y a quelques jours, j'ai eu une grande conversation. J'ai passé la soirée entière avec Raphaël Eindhoven, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et on a pas la même vision de ça. Moi, j'ai juste, c'est comme ma croyance en Dieu. Mm. Je suis un agnostique.
Quel est le rapport avec Eindhoven?
Il avait fait un article dans Franc-Tireur où il disait que je me trompais et qu'il m'expliquait la différence entre le soupçon et le doute. Voilà, que c'était pas la même chose. Que en disant que j'avais un doute, je propageais une rumeur. Je lui expliquais, moi, que comme je suis agnostique, il y a des croyants, des athées, moi, je ne sais pas. Et dans ce domaine-là, j'ai un doute sur le fait que peut-être, il y a un lien entre les deux. J'en suis pas sûr. J'attends qu'on apporte la preuve. La seule chose que j'ai remarquée, qui me gêne dans tout ça, c'est que n'importe quel médicament, du Doliprane, n'importe quoi, t'as une liste d'effets secondaires comme ça. Nous, on nous a injecté un truc et les pro-vaccins te disent qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Je trouve ça étrange.
Mais est-ce qu'au moment où vous exprimez le doute, vous prenez aussi en considération l'effet que ça va avoir dans le débat public, d'ailleurs dans les deux camps, parce que retenir...
Pourquoi on n'aurait pas un doute? J'affirme pas, je dis pas... J'affirme pas, je dis ça, pas. C'est toutes ces... Les trucs extrêmes m'énervent. Tous ces gens qui disent « oui, c'est la faute du vaccin, si on a eu ces maladies », je ne sais pas. J'ai juste posé la question en me disant « peut-être que ça a un lien, peut-être que ça n'en a pas ». Et c'est vrai qu'autour de moi, tu le sais très bien, autour de moi, effectivement, j'ai eu beaucoup de pathologies. Mais autour de moi, j'ai aussi des gens qui sont vaccinés, qui ne sont pas fait vacciner, qui n'ont rien eu. Il y en a qui se sont fait vacciner, qui le soir étaient en réa. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il n'y en a pas? Je pose juste la question, c'est tout. Ça s'arrête là. Je dis pas que ça a un lien, je dis pas que ça n'en a pas. Mais quand ça t'arrive à toi, tu te dis, tiens, avant j'avais rien. Parce que c'est vrai, avant j'avais des analyses nickel. Il m'arrive ça, et effectivement, au lieu de venir le dire sur les plateaux, comme j'ai la chance de pouvoir dialoguer de temps en temps avec le président, je lui ai dit, moi avec le président, je remonte des trucs. Je remonte des infos. J'ai dit, voilà, et lui était pas d'accord. La plupart de mes toubibs, d'ailleurs, m'ont dit, il n'y a pas de lien. La plupart. Il y en a d'autres qui ont aussi un doute.
C'est ça qui est ennuyeux. Il y a des médecins qui disent qu'ils ne sont pas sur cette ligne-là.
Et ces médecins disent... Poser la question, ce n'est pas affirmer les choses. C'est sûr, moi je voudrais qu'il y ait un mec des labos, qu'il y ait des toubibs compétents qui viennent nous dire, il n'y a aucun lien. Voilà, et en voilà la preuve.
Mais je pense que condamner le doute, légitime ou pas, que vous pouvez avoir dans le débat public, est une bêtise. C'est-à-dire que plus vous condamnez le doute et que vous le transformez en soupçon et que vous dites « Ah oui, mais du coup, ça fait de ce monsieur un complotiste ou que sais-je, ou un antivax », plus vous alimentez les mêmes personnes qui doutent du vaccin ou autre. Il vaudrait mieux, je pense, dans une démocratie accomplie, dans un débat public accompli, que chacun puisse exprimer ses doutes ou ses soupçons, que ce soit pour ou contre, par ailleurs.
Que quelqu'un vienne m'exprimer des certitudes. Tu vois, je voudrais qu'il y ait des touristes qui viennent nous dire « On vous certifie à 100% ». Parce que quand je discutais avec Raphaël, il me disait « c'est à toi d'apporter la preuve de ton doute ». Moi, je crois que c'est plutôt le contraire. C'est plutôt aux autres à apporter la preuve de leur certitude.
C'est fracturé dans les... Voilà. Oui, c'est ça. Une majorité est quand même une minorité qui dit le contraire de la majorité.
Il y a beaucoup de médecins qui rapportent des effets secondaires, puisqu'ils me le disent... Ils me disent qu'ils ont du mal à s'exprimer que surtout ces effets secondaires ne sont pas comptabilisés comme effets secondaires. C'est-à-dire qu'il y a refus de l'administration de dire « attention, c'est à cause du vaccin ». Je ne peux pas vous dire autre chose. Je l'entends et ils me le disent. Donc le journaliste que je suis rapporte ça. Je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Mais il y a également des pharmaciens qui me rapportent cela. Alors oui, de vacciner ceux qui sont en danger avec le Covid, parce que dans le bénéfice-risque dans ces cas-là est sans doute avantageux, je dis depuis le départ, de vacciner des gosses de 15 ans, 16 ans, 17 ans, on peut se poser la question, c'est tout, on peut se poser la question.
Dans mon bouquin, c'est ça, j'ai surtout parlé...
Et c'est pas être complotiste que de dire ça.
J'ai surtout parlé des injections qu'on a fait à des gamins. Oui. Ils risquaient rien.
Exactement. Voilà.
Mais je pose des questions. Moi, j'ai pas les réponses. Je suis pas toubib. Moi, depuis que j'ai cette histoire, j'ai vu des toubibs partout sur les réseaux.
Depuis 2 ans et demi, écrivez-vous, pour moi, c'est Pearl Harbor. Ça bombarde sévère, une pluie de projectiles de plus ou moins gros calibre. Alors que le ciel était à peu près dégagé, le vrombissement de l'armada s'est fait de plus en plus sonore et l'attaque s'est déclenchée. Ça a commencé par l'éradiction télé avec le missile France 2, service public avec vos sous. Comme ça, en pleine gueule, en plein succès. Pearl Harbor. S'est passé dans votre
Il s'est passé plein de choses. C'est-à-dire que j'ai pris. Déjà, j'ai fait ce livre pour dire qu'en aucun cas je m'apitoie, en aucun cas je me plains. Mais j'ai ramassé, j'ai pris l'éviction de la télé où j'ai eu droit à. Tu sais, les mecs qui, les pervers narcissiques qui écrasent les nanas, ils m'ont fait un peu ça. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, ils m'ont rabaissé, ils m'ont humilié, ils m'ont viré que sans me parler. Et ce qui fait qu'à la sortie, tu te poses des questions sur toi. Tu te dis, je suis une merde, quoi. Donc il fallait reconstruire derrière ça. D'ailleurs, le bouquin, je l'ai fait aussi pour ça, pour aider aux gens à se reconstruire derrière ça. Il se trouve que derrière, j'ai eu des deuils importants d'amis à moi très proches. J'ai eu une séparation avec mon épouse, mais une séparation qui aussi est un modèle. C'est pour ça que je l'explique dans le livre. On peut très bien se séparer sans se déchirer, sans se cracher dessus, etc. On a une séparation exemplaire. On est sentimentalement, on a nos vies, mais on n'habite plus ensemble, mais on travaille ensemble, on est potes, etc.
Vous étiez resté combien de temps
ça ? 30 ans. On était 30 ans. Mais c'est quand même une séparation.
Vous êtes séparés d'un commun accord, si
vous voulez. Oui, d'un commun accord. Ouais, parce que tous les deux. C'est les journaux. Ah, oh, il s'est fait larguer, etc. Enfin, le classique. Non, d'un commun accord. On se voit toute la journée. Puis on a une fille au milieu. Mais on a une séparation intelligente, c'est-à-dire chacun a sa vie sentimentale, chacun chez soi, et on reste plus qu'amis, on se déchire pas. Et puis derrière, j'ai ramassé un cancer du rein trouvé par hasard. J'appelle ça un chancer. Un coup de bol sur une échographie. J'avais déjà eu ça avec un mélanome infiltrant qu'on avait trouvé par hasard. Donc pour moi,
qui vous empêche d'aller au soleil, je crois.
Qui m'empêche d'aller au soleil, ouais. Et là, on a trouvé ce cancer du rein qui a été opéré, mais c'est pareil. Le toubib, on devait faire une célioscopie, tu sais. Et puis quand ils sont arrivés au rein, ils sont aperçus que j'étais pas foutu comme tout le monde. Qu'au lieu d'avoir une artère dans le rein, j'en avais trois. Donc s'ils continuaient, je pouvais rester sur le billard. Et donc ils m'ont ouvert. Et au lieu de faire 3 heures d'opération, je fais 8 heures. Ce qui est lourd. Bon,
et là, ça va mieux. Vous avez
et là, ça va très
bien. Il n'y a pas eu de chimio, il n'y a pas eu de radiothérapie.
Non, pas de chimio, pas de radiothérapie. Mais c'est quand même. Tout ça, c'est violent. Et derrière, il faut se reconstruire, il faut repartir. Deux mois après, j'étais sur scène au théâtre. Et cet été, j'ai cavalé sur des scènes. On a fait l'ouverture de la Feria de Nîmes avec mes chansons stupides. et avec
la
un public. Avec un public.
Assumé.
Ben non.
Avec vous l'avez devant vous.
Juste, c'est pas du Baudelaire, il est d'accord avec
moi. Mais c'est vrai, c'est pas du Baudelaire. Mais si tu veux.
C'est pas le même usage.
C'est exactement, c'est pas le même usage.
C'est idiot de dire ça. C'est comme de dire c'est pas du Baudelaire. Et quel est l'intérêt de dire ça ? C'est méchant.
Bien, mais c'est pas grave.
Faire,
tu sais quoi, Eric ? Si demain tu peux m'en écrire une qui fonctionne avec la
moi. Écris-la-moi.
Mais le problème, c'est
que.
Et votre bouquin est devant Guillaume Musso, d'ailleurs.
Je le fais.
Premier des ventes.
Il paraît que le bouquin, ce matin,
votre bouquin
était premier
est devant
des
Guillaume Musso.
Devant Musso, oui.
Guillaume Musso.
Ah, bah oui.
Mais je veux dire, c'est.
Préfère Patrick Sébastien.
Quand je te disais.
Musso, ça c'est sûr.
Quand je te disais que. Quand je te disais que c'est plus difficile d'écrire ça qu'une chanson populaire.
Oui, ça, je sais pas.
Chanson populaire, c'est pas facile. Et cet été, j'étais vachement content. Ouais. Parce que j'ai une nouvelle clientèle. Mais ça, je suis pas allé la chercher. Ouais. J'ai des mômes qui ont entre 14 et 22 ans. Ouais. Et qui sont au taquet. Qui connaissent
les chansons. Parce qu'ils sont au second degré.
Hein?
Parce qu'ils prennent ça au second degré.
Non,
parce qu'il y a une forme de second degré. Bien sûr.
Parce qu'on a un besoin de légèreté. Parce que c'est pas innocent que ça, mes chansons. Tu sais que mes chansons, les sardines, par exemple, c'est une connerie. Je vais te faire voir des images. Tous les 15 jours, il y a un enterrement avec cette chanson. C'est que les gens se font enterrer avec qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte.
Non.
Mais je te ferai voir. J'ai les images.
Manifestement, la reine d'Angleterre n'avait pas pris cette option.
Elle n'a pas prévu, non.
Les images que nous avons vues pendant quelques jours en direct de Londres, mais à Westminster.
Mes chansons, elles sont dans les fêtes.
Puisqu'on parle de mort.
C'est une autre France.
Mais je suis d'accord.
C'est une autre France. C'est une France qui a besoin de se détendre, qui a besoin d'écouter les choses légères.
Oui, ça se détend.
Le futile, c'est essentiel. C'est ce que j'ai appris, tu sais, parce que j'ai quand même des notions de philosophie. J'avais un professeur de philosophie, j'ai fait des études de lettres, qui m'a donné une chose très importante, une phrase que j'ai retenue toute ma vie. Il m'a dit, il faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre. Tu peux pas savoir comme ça m'a aidé. Et le léger et le futile, j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs le soir avec Raphaël, on parlait de Spinoza. Excuse-moi de citer des noms que j'ai pas l'habitude
Spinoza
de citer.
Spinoza était là aussi, Sosa. Vous avez dîné ensemble.
Excuse-moi de citer des noms que j'ai pas l'habitude
du
de
bon
citer.
Monde.
Mais le futile et le léger sont essentiels.
Je suis d'accord.
On est dans une société totalement anxiogène. D'ailleurs,
c'est pas faux.
Mais c'est très flagrant de voir une chose qui m'a étonné. J'en parle dans le livre. On est dans une société anxiogène et tu te dis, les gens vont aller vers le divertissement. Eh ben, pas du tout. À la télé, ce qui marche, c'est meurtres, crimes, viols, etc.
Donc, les comédies au cinéma, il y a beaucoup de comédies. Elles sont pas toujours réussies, mais
les drames qui marchent.
Alors,
ce qui est intéressant, c'est que Patrick dévoile. Il y a un visage du festif qui n'a rien à voir avec le festif qu'on peut voir parfois dans certaines villes, qui est un festif... Non, mais c'est vrai. qui est un vestif de violence, qui est un vestif d'agression. Mmh. Le festif de Patrick, lui, ne relève pas de ça.
Mmh. Moi, dans mon public...
C'est ce qu'on appelle bon enfant.
Non, mais je dis ça parce que très souvent...
Pas seulement bon enfant.
Bah oui, si.
Pourquoi pas seulement
dans le public que j'ai, il y a des gens de ta génération, de la mienne, il y a des mômes, il y a des vieux, il y a des blonds, il y a des noirs. Y a je leur fais chanter la Marseillaise au départ sur mon spectacle, parce que ça, c'est la France que j'aime. C'est une France mélangée, qui ne se juge pas, qui n'a pas de mépris. Il y a des gens très intelligents
la France aussi, du Tour de France.
Qui écoutent ça. C'est, et ce truc-là, il y a effectivement une espèce de mépris de dire « Ouais, c'est de la chanson de beauf, tu sais. » À part que... celui qui m'avait le plus aimé, c'est Aznavour, que je sais que t'aimes bien, à qui je disais, bon, je fais des chansons légères à la con. Il m'a dit, non, les chansons à la con, c'est celui qui chante Je t'aime comme je l'ai chanté déjà 53 fois. Mais à partir du moment où tu provoques une émotion, tu vois, où tu fais chanter les gens, tu leur donnes du bonheur, c'est une chanson intéressante. Voilà, c'est ce que me disait Charles. Donc je préfère la vie de Charles, quoi.
Mais les gosses, c'est pas un hasard si aujourd'hui, dans les boîtes, ils écoutent les années 80 ou les années
80, ils sont à fond.
Ils écoutent Stone et Chardin. Stone et Chardin.
C'était du léger.
Voilà, c'est du léger. Parce que c'est tellement, comment dire, ça symbolise tellement une époque de légèreté, de bon enfant, de joie de vivre, etc. Alors, joie de vivre, pas toujours chez vous. Je ne te cache pas qu'il est tentant, le 9 mm. Là, tout près, dans le tiroir de l'armoire d'en face. Putain, comme souvent j'en ai envie. Il suffirait d'un élan et boum, sans peur et sans regret, lassé de tout. Et finalement, pas mécontent de moi, parce que quand même, malgré les tempêtes, elle a été belle, la vie, la croisière. Là, je trouve que vous mentez.
C'est de la posture. Sur le suicide ?
C'est de la posture.
Vous avez je peux répondre à la question ?
Oui.
Tu sais, ma phrase de chevet, c'est une phrase de Frédéric Dard qui dit « Je suis un vieux fœtus blasé, ma vie m'aura servi de leçon, je ne recommencerai plus jamais ». Quand je te parle du suicide, je ne te parle pas d'un suicide par désespoir. J'ai une vie, j'ai eu un bol énorme, je me suis éclaté.
C'est du talent, Patrick.
Non, attends, je parle de ma vie d'homme, le talent, on s'en fout, je parle de ma vie d'homme.
C'est là, c'est votre talent qui fait votre vie.
J'ai une vie d'homme où j'ai eu plein de malheurs, j'ai eu des choses très graves, j'ai perdu un fils, mais j'ai quand même été gâté par rapport de l'endroit où je suis venu. Je me suis toujours dit, mais toujours, c'est pas d'aujourd'hui. J'en parlais à l'époque avec Gainsbourg, avec Philippe Léotard, qui quelque part sont suicidés à leur manière. Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. J'ai vu ma maman, qui était une femme active, passer 4 ans d'hôpital en hôpital. La métaphore que j'emploie dans le bouquin, c'est de dire, j'ai fait une vie où j'ai fait un bon repas. J'ai bouffé du caviar, du champagne. Je veux pas finir avec une compote pourrie et une madeleine effritée.
Tout le monde dit ça, mais si personne ne le fait.
J'ai pas les couilles de le faire. Je dis que c'est tentant. Oui. C'est pas exclu que je le fasse, mais je te dis pas que c'est pas une imposture du tout. C'est une réalité. Je vais pas le faire pour te faire plaisir.
Non. Mais la vie est plus forte, c'est ce que je vais vous dire. Tout le monde dit ça. Oui. Quand on est en pleine... beaucoup disent, je veux pas être diminué, j'entends ça. Oui. Et je m'aperçois que quand tu passes 80, 85, 90, même
compliqué.
Quand tu es diminué, même quand tu y vas, tu t'accroches, parce que personne n'a envie de mourir.
Il y en a qui s'accrochent pas, Je te dis, j'ai le droit d'exprimer un avis et un ressenti que j'ai depuis toujours, d'ailleurs.
Mais Patrick, pas le courage. Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas à l'acte ? Qu'est-ce qui vous plaît encore
dans
la vie ?
C'est le manque de couilles. C'est un acte.
Seulement le courage. Mais vous n'aimez pas votre vie au quotidien.
C'est un acte de courage. C'est un acte
vous aimez
de courage,
bien être ici, regardez, vous passez un bon moment plutôt.
Ouais, mais j'ai. Écoute, j'ai été gâté. J'ai été gâté plus que de mesure. J'ai réalisé mes rêves de gosse. J'ai une vie. Et puis, je te cache pas, je suis comme ton pote Delon, qui est aussi le mien. Cette société d'aujourd'hui m'emmerde. J'aime pas ce monde-là.
Oui, mais elle emmerde tous ceux qui ont plus de 50 ans, Patrick.
J'aime pas ce monde-là. Il y a des choses que j'aime bien. Je me suis fabriqué mon monde à moi. Oui. C'est-à-dire que, comme ce monde-là, je peux rien faire contre, je me suis fabriqué un monde à moi où j'ai des amis qui sont exactement dans les mêmes valeurs que moi. Et il y a beaucoup de jeunes dedans. Il y a beaucoup de mômes. Hein, parce qu'il y a beaucoup de mômes qui ont la même réaction que moi.
Oui, mais alors pourquoi ça suffit pas pour que vous ayez envie de vivre ? Que vous soyez avec cette idée.
Tu sais, quand j'avais fait un truc qui s'appelait De l'autre côté du miroir. Je m'étais déguisé c'est des personnages qui recevaient. J'avais fait Frédéric Dard justement devant son fils. Et son fils me faisait une réflexion, enfin, croyant parler à son père. Il disait, j'ai toujours plus cru que t'avais peur de la mort. En fait, c'est la vie qui te faisait peur. Et je crois que c'est un peu ça. La vie me réjouit pas tant que ça aujourd'hui.
Oui,
et puis je l'ai surtout vachement bien vécu.
Mais oui, c'est ça. Il y a quelque chose de blasé.
J'ai eu tous les plaisirs que je voulais. J'ai réussi ma liberté. Oui.
Parce que vraiment, je le ressens mal ce que dit Patrick Sébastien. Ouais. Parce que je respecte. Hein, ça. Mais c'est un acte d'un égoïsme, le suicide extraordinaire. Vous avez pensé la peine que vous allez faire à ceux qui vous aiment
Vous avez pensé à vos petits-enfants qui ne connaîtront pas leur grand-père. Je trouve ça mais
est-ce
vraiment...
Est-ce que je peux vous répondre, monsieur?
Mais bien sûr.
J'ai écrit exactement ce que vous venez de dire. Il y a des gens qui me disent, tu as pensé à la peine que tu vas faire, etc. Et puis il y a ma petite-fille, qui est la fille de mon fils que j'ai perdu, qui me dit, tu vois, tu fais un truc comme ça, ça serait abominable pour moi. Mais comme je t'aime vraiment, si c'était ton choix, avec l'amour que j'ai pour toi, je le respecterai. Sinon, justement, l'acte égoïste, c'est les autres qui disent, ah mais pense à nous. Les gens qui t'aiment vraiment, ils disent, pense à toi. Si à un moment, pour toi, c'est quelque chose dont tu as besoin et dont tu as envie, la vraie preuve d'amour, c'est de te dire, c'est très dur à supporter.
Si ça arrive, elle va penser autrement.
Je sais pas, mais attendez, les enfants.
Là, dans une conversation.
J'ai juste, là, on parle. Je vais pas le faire en sortant. Je conseille à personne. Je dis simplement, comme c'est un bouquin où je parle de tout, j'ai parlé de mes ressentis au quotidien, c'est vrai qu'il y a des moments où ces choses-là
Est-ce que lorsqu'on a, comme vous, tout eu, tous les plaisirs...
Pas tout. Suffisamment.
Et vous le dites parfois, j'aimerais au fond, retrouver une sorte de virginité sur les plaisirs, retrouver pour la première fois la Tour Eiffel, etc. Est-ce que vous n'êtes pas blasé?
C'est ce que je viens de te dire. Je suis un vieux fœtus blasé. Ma vie m'aura servi de leçon. Je ne recommencerai plus jamais. C'est ça. Je suis blasé.
Est-ce qu'il y a encore quelque chose, au fond, qui peut vous exciter ou dans la vie privée ou dans la vie publique?
De voir peut-être avant de partir la société changer. Moi, je rêve d'une révolution humaniste et non violente. Ce n'est pas arrivé. Hein. Mais voir, pour mes enfants à venir, voir les gens avec... on s'est toujours foutu de ma gueule, oh putain, c'est que de l'amour. Oui, avec beaucoup plus de bienveillance. C'est mal barré. Mais si cette société... Si au lieu d'avoir mon... On est très peu à avoir mon discours, à moi, de bienveillance absolue, quitte à se faire embarrer, se faire traiter de beauf, etc. Si on était beaucoup plus nombreux à communiquer ce discours-là, de regard sur les autres, de partage, ce que j'ai toujours fait dans ma vie, de légèreté, effectivement, c'est le seul truc qui me plairait... auquel il me plairait d'assister avant de partir, tu vois. Mais c'est mal barré quand même. On est plus dans de l'actualité que vous avez montré, que vous allez montrer tous les jours. On est dans une violence réelle. On est dans des clashs. On est dans des gens qui s'agressent. Je te dis, heureusement, je me suis fabriqué un monde à côté où il n'y a pas ça. Où il n'y a pas ça. Où il y a des gens qui se comprennent, qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas obligés de s'invectiver, qui ne sont pas obligés de s'agresser en n'étant pas d'accord. C'est un peu un monde idéal, j'y suis bien d'ailleurs.
Vous parlez de Zemmour également, vous dites, j'y ai eu le droit récemment dans une interview, j'ai déclaré que je trouvais Zemmour intelligent, brillant et qu'il disait des vérités, mais que malgré ça, je n'adhérais pas du tout à son programme. Les rapaces n'ont pris que la première partie de ma déclaration et les titres accrocheurs m'ont fait passer pour un soutien que je ne suis absolument pas. C'est d'ailleurs le problème qu'a Éric Nolot de temps en temps, il est assimilé.
Quand tu sors un bouquin comme ça ou quand tu parles aujourd'hui à la télé, il y a des sites nauséabonds, je vais dire ce qui est, qui te prennent un bout. Et c'est vrai que j'avais dit que ce que je pense, que je trouvais Zemmour intelligent, brillant, etc., comme toi, mais ils ont pris la première partie du truc. J'ai même reçu un coup de téléphone derrière de soutien à lui qui me disait on n'organise pas, tu veux pas venir. J'ai dit non, c'est... Voilà, mais ça, par rapport à mon bouquin, ils en ont pris plein de bouts, comme ça. Qu'on sort, je dis aux gens, lisez-le, vous allez avoir l'intégralité. Il y a la thèse, l'antithèse, la synthèse, comme on m'a appris dans mes devoirs de philo. Je me fais l'avocat de mon diable, de temps en temps. Mais apparemment, ça a l'air de toucher les gens que je veux toucher, c'est-à-dire le peuple d'où je viens et que j'ai jamais voulu trahir. Bon. Voilà.
Sexe, amour et fantaisie, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu de mon sexe et de mes solitudes. J'aime autant les énamourés romantiques que les travestis du bois de Bologne.
Non, mais ça, c'est une...
Ah, vous avez...
Comment ?
Vous avez le droit d'ailleurs, mais
Non, mais en fait, je vais t'expliquer.
C'est étonnant de le dire comme ça. Je suis un infidèle chronique et un libertin assumé.
Je suis.
Je n'ai aucune barrière si ce n'est celle du consentement.
Non, c'est aussi pour vous expliquer que je suis pas un client assidu. Je te rassure. C'est juste, j'aime les marginaux. J'aime autant les romantiques que les marginaux. Et pour le bois de Boulogne, il faut que je t'explique. En fait, je suis en mission écologique. Délégué par Sandrine Rousseau. C'est-à-dire que je vais vérifier.
Meilleure phrase de l'émission.
Oui, voilà. Je vais vérifier que les arbres ne sont pas maltraités. Et c'est une connerie. Et je m'occupe aussi des plastiques usagés. C'est-à-dire que je récupère les capotes usagées pour les recycler et en faire des cartes d'électeurs pour que les électeurs
se rendent compte. J'ai toujours été un collectionneur.
Laisse-moi finir. Pour que les électeurs se rendent compte que finalement, un jour ou l'autre, ils se feront baiser. Bon. Ça vous va comme explication?
J'ai toujours été un collectionneur. Invétéré, si j'en ai la possibilité, je ne laisserai passer aucune occasion, si furtive soit-elle. Alors ça, c'est une vraie question pour les hommes qui sont effectivement ou Casanova ou collectionneurs, etc.
Comment vous expliquez ça au fond, de toujours vouloir séduire et de ne pas finalement...
Je suis pas 24 heures sur, je bosse travaille beaucoup, je suis pas 24 heures sur 24 là-dessus.
Mais sans faire de psychanalyse, ça vient d'où?
J'en sais rien, je sais pas, ça vient peut-être de mon éducation campagnarde où on n'avait pas beaucoup de loisirs, si ce n'est ça. Moi, j'ai grandi dans une province où on bossait beaucoup.
Et ça vous est jamais arrivé de tomber amoureux d'une femme et de pas la tromper pendant un an?
Ça m'est arrivé de tomber amoureux, mais ça ne va pas rentrer dans tous les détails. On ne va pas rentrer dans tous les détails.
Si, c'est intéressant, les détails. Mais est-ce que c'est intéressant? Vous dites, je suis un
collectionneur.
Un collectionneur, mais surtout un
libertin assumé.
Oui, alors libertin, pourquoi pas? Mais surtout un infidèle.
Oui, ben je suis un infidèle, oui, mais c'est quelque chose que j'ai assumé, que j'ai expliqué tout de suite. Toutes les compagnes avec qui j'ai été, j'aurais dit, comme beaucoup de gens, peut-être des gens autour de cette table, ouais, qui jurent un amour fidèle éternel, ouais, et qui ne s'y tiennent pas, oui, souvent. Eh ben moi, j'ai pas voulu avoir cette trahison.
Vous leur avez dit. Vous leur avez dit, voilà, je suis infidèle.
Si on doit habiter ensemble, je suis comme ça.
Et elles ont accepté.
Donc c'est... Et je ne demande pas à la personne d'être fidèle non plus. Je veux dire, ça fait partie de, c'est un code au départ. Si moi je suis infidèle, bah t'as le droit de l'être. Chacun sa liberté, chacun
ses jardins. Infidélité sexuelle, bien évidemment.
Non, il y a une chose qui...
Parce qu'autrement, on est fidèle, vous êtes fidèle, justement.
J'ai tout un chapitre. Je suis fidèle en amitié, bien je suis fidèle.
Puis ma et fidélité, même à votre...
Ma fidélité, compagne, elle est ailleurs. Bien ma sûr, fidélité, elle est que quand quelqu'un va mal, je suis là. C'est quelque chose de très particulier. Il y a une chose qui me gêne dans l'amour, c'est la possessivité. Parce que je trouve que ça bouffe tout. C'est mon point de vue, c'est pas obligé d'être le point de vue de tout le monde. J'estime que personne n'appartient à personne. Je n'appartiens pas plus que quelqu'un ne m'appartient. Dans la possessivité, ça déclenche tous les drames que vous connaissez. Ça déclenche les bagarres, les violences, ça déclenche des très bons moments, bien sûr. Mais ça déclenche les crimes passionnels, tout ça. Je suis pas dans ça.
Crime passionnel, c'est plus au goût du jour. Hein. C'est un mot, c'est un crime passionnel, c'est l'ancien monde. Hein.
Il y a des crimes passionnels dans les deux sens. Il y a les féminicides, effectivement, qui sont dramatiques. Ils sont dramatiques. Il y a beaucoup de la possessivité.
Mais je suis d'accord avec vous.
Moi, j'ai choisi de ne pas être dans cette bagarre-là.
Je suis d'accord.
J'ai une position qui est plus que féministe, moi, justement. C'est-à-dire que moi, j'estime qu'une femme s'appartient avant tout. La femme qui va partager ma vie, elle s'appartient. Elle a le droit. Moi, ma conception de l'amour est d'accepter et surtout de faire tout pour que l'autre puisse être heureux en dehors de soi. Il n'y a pas plus féministe que ça. Il n'y a pas plus. Et c'est sincère.
C'est étrange,
et c'est vrai.
Cette contradiction, cette force vitale que vous avez et des pulsions mortifères. C'est une contradiction qui est très étrange. En vous écoutant, parce qu'on n'entend pas un vieillard qui est vraiment arrivé au bout de sa vie qui dit
plus
rien ne m'intéresse. Mortifères. Dès que vous commencez à parler, il y a vos convictions qui vous animent. Voilà. Ouais. Donc vous. Je crois que vous êtes plus du côté de la vie que de la mort.
Oui.
Vraiment.
Je ne sais pas. Si. Franchement, je ne sais pas.
Moi, je ressens ça.
Je ne sais pas, mais c'est comme mon intime à moi, voilà. Tu vois. Mais c'est vrai que sur cette question de l'amour, j'ai tout un chapitre sur cet amour-là. C'est une conception des choses que j'ai. Je suis un amoureux profond de la liberté, y compris la liberté d'arrêter la vie si j'en ai envie.
Oui, mais vous êtes dans l'énergie,
Patrick. Je suis un amoureux
Patrick.
De la liberté. Total.
On entend de l'énergie, là, on entend.
Vous êtes dans
quelqu'un
l'énergie.
Quelqu'un qui a des envies.
Hein? Vous êtes dans l'énergie.
Ouais. Bah, heureusement que je suis dans l'énergie. Et cette énergie-là, dans le bouquin, c'est ce que j'essaie de communiquer à ceux qui en manquent. Cette force que j'ai, qui me permet.
Qui est une
parce
force
qu'excuse-moi, mais je suis passé au-dessus du deuil, la pire des choses qui arrivent, le deuil d'un enfant. Déjà, ça te transforme complètement. Et ça fait partie des choses qui te font penser à la mort différemment. Parce que quand tu perds un enfant, tu meurs un peu. Tu vois? Et après, tout ce qui s'est passé, le succès, c'est dangereux, le succès. C'est dangereux, la popularité, c'est dangereux tout ça. Alors ça fait faire plein de réflexions et j'essaie de communiquer la force que j'ai trouvée pour tenir, pour continuer à cavaler, j'essaie de la communiquer à ceux qui me lisent. Voilà.
Je vous coupe. Malheureusement, alors moi, comme je vous adore, on pourrait continuer cette discussion ensemble et je suis persuadé que les téléspectateurs aimeraient vous écouter parce que ce que vous dites est intéressant et les
intéresse. J'essaie d'être sincère et cash sur...
Mais c'est vrai. C'est
tu
vrai.
Sais, dans une vie... Non, mais j'explique que dans... Je regarde la tête. Il y a beaucoup de faux-semblants. Oui. Beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai choisi d'être transparent.
Mais ici, il n'y a pas de faux-semblants. Nolo, Melun, Fennec. Fennec qui a tué tout à l'heure une deuxième fois le général. Je veux dire... Du coup, il se tait depuis tout à l'heure, il est puni. Et notre ami également, Mazescaron. Avant, parce qu'on est très en retard déjà, avant de donner la parole à Audrey Berthaud, ce dimanche, Philippe Labro recevra Francis Weber qui revient au théâtre avec une nouvelle pièce, Le Tourbillon. Ah, c'est un génie, Francis
J'adore
Weber.
Ça,
c'est un génie en théâtre, mais aussi en scénario. C'est lui qui a fait Le Jouet. C'est lui, par exemple, qui a fait ce film avec Ventura et Patrick Devers, que j'adore. C'est un film de Pierre Adieu. Poulet, c'est le scénario. Il est Montpellier Verja. Vous savez pourquoi il s'appelle Verja?
Non. Non.
Ah non.
Javert.
Ah tiens. Oh.
Il est à Montpellier Verja. Mais bien sûr, il l'avait inversé, Javert. Vous savez pas ça?
Non, je savais pas, non. Tu me l'apprends.
Franchement, Verja, il est à Montpellier, Verja. Dit Lino Ventura à la fin. Eh bien, écoutons. Dominique Besnard sera également sur le plateau. Moi, j'adore Dominique Besnard. Alors, je vais vous dire, je suis fan absolu de Dominique Besnard. Et moi, je le connais bien. Il me dit, Pascal, t'aurais pu être un agent. Ça aurait été formidable. Alors, je vais vous dire, la Sophie Marceau qui m'appelle à New York, Isabelle Huppert qui m'appelle à Pékin. Mais alors, je dors quand non, moi, avec Dominique Besnard. Alors, vraiment, j'adore. Audrey Berthaud, les infos.
À Rennes, des militants d'extrême gauche ont tiré des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre cette nuit. Un feu a été allumé, vous le voyez, au milieu de la place Sainte-Anne. Les centaines de manifestants ont brûlé des poubelles, des chaises et d'autres objets. Les policiers ont répliqué en tirant des grenades lacrymogènes. En Afghanistan, au moins 19 morts dans un attentat contre un centre de formation à Kaboul. La plupart des victimes sont des femmes. Ce centre de formation prépare des étudiants âgés de 18 ans et plus à leur examen d'entrée à l'université. Cet attentat s'est produit à l'ouest de Kaboul. Enfin, nouveau changement pour les Britanniques. Bientôt, ils pourront avoir dans leur porte-monnaie des pièces frappées du portrait du roi Charles III, en plus de celles déjà existantes avec l'image de la reine Elisabeth II. Les pièces entreront en circulation dans les prochains mois, probablement autour du mois de décembre.
Jean-Marc Morandini me pardonnera, exceptionnellement, on va un poil déborder, mais voyez la séquence avec Philippe Ladbrot, parce que c'est sur C8, c'est dimanche, vers 22h15, Francis Weber.
J'ai pas beaucoup écrit, ancré dans mon époque jusqu'à présent, à part peut-être Le Placard, où Auteuil jouait le rôle d'un type qui était obligé de se faire passer pour gay dans une usine de préservatifs pour garder sa place. C'est un peu dans l'actualité. Mais les autres films, non, sont des postulats qui sont plus abstraits, si vous voulez. Ouais. Et là, cette époque est tellement folle.
Notre époque.
La nôtre. Si on met de côté la tragédie à laquelle je ne peux pas toucher, moi, non. C'est une des époques les plus ridicules de l'histoire. Ouais. C'est incroyable. Les ultras de gauche ou de droite sont des encriers pour les humoristes. Ouais. Il y a l'encrier Sandrine Rousseau, par exemple. Oui. Ah, vous trempez votre plume là-dedans, vous ressortez avec des trucs... moi, je me virilise en mettant un morceau de barbac sur le barbecue, si vous voulez. Oui. Merci. Merci à tous ces gens-là.
C'est un génie, Francis Weber. Et ne manquez pas le rendez-vous. Bonjour, docteur Millot. Demain, Brigitte Millot nous parlera d'un phénomène que l'on connaît tous très bien, le stress. Alors, quelles sont les conséquences sur la santé et comment le gérer? Réponse demain. 10h sur CNews. On est très en retard. Merci à Audrey Missiraka. Non, c'est fini. Jean-François Gouvelard était au son. 4 minutes de retard. David Tonnelier était à la vision. Merci à Marine Lançon. Merci à Justine Cerquera. Rendez-vous lundi. Et Jean-Marc, tout de suite.